Décryptage, Laurent Lemire.
Bonsoir à tous. La psychiatrie française est-elle malade ? En pleine crise sanitaire, le pouvoir politique semble abandonner la psychiatrie publique à sa misère. Les premiers touchés, évidemment, sont les malades les plus fragiles. C'est le constat que dresse le psychiatre et écrivain Emmanuel Venet dans un manifeste qui rappelle qu'un Français sur trois a été, est ou sera atteint d'un trouble mental. Bonsoir Emmanuel Venet.
Bonsoir et merci de m'avoir invité.
Vous êtes psychiatre mais aussi écrivain. Vous travaillez à l'hôpital du Vinatier, près de Lyon, je crois.
C'est ça.
Et vous publiez chez Verdier un manifeste pour une psychiatrie artisanale. Et vous allez publier dans les jours qui viennent un ouvrage qui est un peu plus lointain de la psychiatrie, qui s'appelle « Observation en trois lignes, à la fosse aux ours », qui est une sorte d'hommage à Félix Fénéon et à ses fameuses nouvelles en trois lignes. Alors, dans votre manifeste pour une psychiatrie artisanale, alors on sent aussi la détermination et aussi la belle patte de l'écrivain, parce que vous dites les choses telles que vous les ressentez en tant que praticien. Et la première phrase, elle dit déjà beaucoup de choses. Vous écrivez « La psychiatrie publique de notre pays craque de toutes parts, et sur ce point, le diagnostic est presque unanime. Les hôpitaux n'ont plus rien d'hospitalier, même lorsqu'ils sont flambant neufs. Les centres médico-psychologiques proposent des délais de rendez-vous indécents, même et surtout dans les communes où les besoins de soins sont les plus criants. Les cliniques privées se transforment en outils financiers et la logique de rentabilité y concurrence dangereusement la fonction thérapeutique. Les praticiens libéraux deviennent inaccessibles en raison d'agendas surchargés et ou de dépassements d'honoraires rédhibitoires. Les équipes paramédicales débordées. » Alors là, je pourrais continuer parce que la phrase continue, c'est-à-dire vous faites un diagnostic cataclysmique de la situation de la psychiatrie publique, j'entends bien, oui. En France.
Oui, et méfions-nous des effets de calendrier parce que c'est pas lié à la crise de Covid en fait, cette affaire. Alors je vais revenir un petit peu sur la genèse de ce livre. L'idée m'est venue de l'écrire très très brutalement, très très fortement, impérieusement, début décembre 2019.
Oui, donc bien avant la crise sanitaire.
Voilà. Alors c'était le début de cette épidémie à Wuhan où on se disait, ma foi, c'est une affaire lointaine qui nous concerne peu. Et personne, je pense, imaginait à l'époque, en tout cas pas moi, que ça pourrait nous arriver et nous arriver comme ça nous est arrivé. En revanche, j'observais, et pas tout à fait d'hier, hein, ni d'avant-hier, j'observais une dégradation continue et tout à fait inquiétante des conditions d'exercice de la psychiatrie dite de secteur. La psychiatrie de secteur, c'est cette invention de 1960 qu'on doit à des psychiatres qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vécu la catastrophe du modèle asilaire et qui ont lutté âprement après la guerre pour créer une psychiatrie moins stigmatisante, une psychiatrie qui ait une fonction préventive.
Plus accessible et plus proche des gens.
Et plus accessible, voilà. Avec une composante ambulatoire, avec la possibilité même de se soigner uniquement en ambulatoire et sans avoir recours à l'hôpital, qui est effectivement...
L'hospitalisation
en psychiatrie est toujours quelque chose, une épreuve assez douloureuse. Et cette psychiatrie de secteur qui remplissait, qui a mis du temps, hein, qui ne s'est pas imposé d'emblée, mais qui, disons, depuis les années 80 ou 90, remplissait sa mission assez vaillamment, globalement. Hein, il y avait des disparités sur l'ensemble du territoire, mais globalement, ça marchait, ce modèle. On s'aperçoit que depuis une vingtaine d'années, 25 ans, les conditions d'exercice se dégradent, mais se dégradent de manière extrêmement dangereuse, au point que...
Elle se dégrade à cause de quoi ? Quelles sont les raisons de cette dégradation ?
Alors, la raison première, hein, bien évidemment, elle est budgétaire. Elle est budgétaire. Alors, ce n'est pas que les budgets n'augmentent pas, c'est qu'ils n'augmentent pas autant que les dépenses. Et le pouvoir politique...
Oui, parce qu'on parle de 23 milliards d'euros, on dit que c'est des premiers postes de dépenses de l'assurance maladie.
Indéniablement, ce sont des maladies qui coûtent cher parce qu'elles sont extrêmement fréquentes. J'ai pris le chiffre de un Français sur trois malade aujourd'hui, hier ou demain. Je l'ai pris dans le livre de Marion Le Boyer et Pierre-Marie Lorca de la Fondation Fondamentale. Peut-être qu'elle est un petit peu excessive. Peut-être que c'est plus près de 1 sur 4. Mais en tout cas, Ce sont des pathologies
importantes.
Oui, ce sont des pathologies vraiment importantes. Et en particulier, les pathologies les plus lourdes et les plus chroniques, comme les troubles du spectre de l'autisme, les troubles du spectre de la schizophrénie, les troubles bipolaires, c'est vraiment, ça concerne des centaines de milliers, enfin des millions de Français. Et ce sont des pathologies qui durent et qui demandent des soins longs. Alors, les budgets de la psychiatrie publique ne cessent de s'effriter. En somme, ils augmentent moins vite que ce qu'ils devraient. Ça, c'est un premier point. Et puis,
vous le ressentez au quotidien dans votre exercice de praticien à l'hôpital près de Lyon.
Oui, et c'est dit dans les commissions médicales d'établissement tous les ans quand on présente le budget. Hein, on a, mettons, je sais pas, 1,5% d'augmentation. Il en faudrait 2 pour maintenir le système dans la même configuration. Donc, on va perdre un peu des postes, on va amputer ceci, on va amputer cela. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est un choix politique tout à fait insidieux, tout à fait subreptice, qui n'est jamais vraiment dit, mais c'est de privilégier certains services qui ne sont pas des services sectoriels, qui vont plutôt être des services qui ont la vocation de soigner un certain type de pathologie.
C'est-à-dire ?
J'appelle transversaux. Alors, je vous donne un exemple extrêmement simple. Au Vinatier, Vinatier, qui est un établissement où je travaille depuis très longtemps.
Hein, donc vous dites des années 80.
Moi, j'ai mis un premier pied au Vinatier en 1981 en tant qu'étudiant hospitalier. Bon, ensuite, j'ai été interne à partir de 85. On va dire que ça compte plutôt à partir de 85. Mais ça fait 35 ans de recul et j'ai vraiment vu une évolution dans un bon sens pour certaines choses et dans un sens très, très inquiétant et contestable pour d'autres. À savoir que petit à petit, à partir des années 2000, on a créé des services sécuritaires. On en a créé 3. Un service dit de soins intensifs psychiatriques pour des malades agités, un service dit pour une unité pour malades difficiles, c'est une terminologie que j'abomine parce qu'il n'y a pas d'unité pour malades faciles, mais enfin bon, c'est appelé comme ça, c'est pour des malades dangereux et souvent durablement dangereux. Et puis également, on a ouvert une unité d'hospitalisation spécialement aménagée, ce qui veut strictement rien dire en tant que tel, mais qui désigne une unité qui est destinée à recevoir des malades mentaux incarcérés, soit prévenus, soit détenus. Et c'est une avancée, c'est un progrès indéniable par rapport à la situation précédente. On peut les soigner pendant leur temps de détention, mais ça se fait au détriment de la psychiatrie de secteur. Ça a pompé énormément de moyens à cette psychiatrie humble, sociale.
C'est-à-dire que cette demande de l'État, de la structure du politique, se fait au détriment d'une autre psychiatrie que vous qualifiez d'artisanal, c'est-à-dire de proche, de relationnel, de lente.
Pas tout à fait. Je la qualifie de sectorielle. La psychiatrie de secteur, celle qui est née, je vous dis, en réaction à la catastrophe asilaire de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a d'autres services transversaux dédiés à des pathologies. On a créé des centres d'addictologie, on a créé des centres de traitement de la dépression, des centres de traitement des troubles anxieux, des troubles du sommeil, etc., des troubles de l'autisme. Alors ça, c'est une première, si vous voulez, une première concurrence directe faite au service secteur qui a débouché sur un assèchement des moyens de cette psychiatrie très humble et en même temps socialement très nécessaire et dont le modèle, encore une fois, est très efficace. Je peux le dire d'expérience parce que j'ai travaillé dans ces services-là pendant plusieurs décennies.
Et cette psychiatrie-là, humble et sociale, elle est sous-financée depuis des décennies, finalement.
Oui. Et je vous dis, elle se fait tailler des croupières par une psychiatrie qui se présente comme plus noble parce que spécialisée dans telle pathologie. Alors, après, la question de l'artisanat, effectivement, ça c'est une question
artisanale.
J'entends par là que il y a dans ces services-là la possibilité pour les psychiatres, mais également les psychologues, les infirmiers, les paramédicaux, et enfin l'ensemble des gens qui participent aux soins, la possibilité de faire des hypothèses sur la pathologie qu'on rencontre, de mettre en place, de proposer un dispositif de soins, de corriger en fonction des effets ou des méfaits des premières mesures thérapeutiques et de proche en proche d'affiner en quelque sorte le dispositif de soins pour le personnaliser au mieux et l'adapter à la situation du patient.
Pour ça, il faut du temps.
Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la disponibilité, il faut de la continuité dans l'investissement. le modèle qui est en train de s'imposer est un modèle qui disjoint complètement la fonction du diagnostic ou la question du diagnostic et la question du soin. Alors c'est le modèle des centres experts qui est extrêmement à la mode. On crée un centre expert où des psychiatres également, souvent des neuropsychologues, des rééducateurs éventuellement, vous voyez, ergothérapeutes, orthophonistes.
Oui, l'Institut de recherche fondamentale, ça relève de ça.
C'est le modèle qui est promu par la Fondation fondamentale, oui. Et alors là, en un temps très resserré, ça peut être une demi-journée, une journée, deux jours, on fait de la psychométrie, on fait une évaluation clinique qui, même si elle est approfondie, ne va pas être extrêmement longue, hein, ça peut être une heure, deux heures. Et puis, on va poser un diagnostic et préconiser un traitement. Mais le traitement se fera ailleurs. Et il n'y a pas de révision, vous voyez, il n'y a pas ce va-et-vient entre la mise en œuvre du traitement, la révision du diagnostic, la révision de l'hypothèse, l'affinement du soin. Ce qui fait qu'on va vers des catastrophes, j'en ai vu plusieurs. J'ai vu plusieurs personnes qui consultaient pour des chagrins d'amour. Chagrin d'amour, ça peut être grave. Hein, des gens qui avaient fait des tentatives de suicide et qui se retrouvaient étiquetés bipolaires avec un traitement complètement inutile dans leur cas et même dangereux. Un traitement qui fait prendre du poids.
Je vous cite page 44 de votre manifeste pour une psychiatrie artisanale. J'ai personnellement reçu plusieurs jeunes patients qui, pour avoir fait deux ou trois tentatives de suicide dans le contexte d'une déception sentimentale, ce que vous venez de dire, mais aussi pour compter un suicidé ou un suicidant dans leur famille élargie, se sont vus poser à la volée un diagnostic de bipolarité et le traitement qui va avec, thymorégulateur et ou neuroleptique. Après quoi, un peu plus désespérés pour avoir pris 20 kilos et ne plus se reconnaître, ils arrivent dans leur service de secteur, là où vous exercez, parce que le psychiatre expert qui a posé le mauvais diagnostic n'assure pas le service après-vente.
C'est dit d'une manière un peu crue, mais voilà, vous avez exactement le modèle que je dénonce. Oui, c'est tout à fait ça.
Alors, comment expliquez-vous, parce qu'on est dans une crise sanitaire où on voit bien l'importance que remporte la santé, la notion de santé. Mais la notion de santé mentale, elle semble plus difficile à définir finalement dans la société. Parce qu'on dit la santé, c'est quelque chose, on le voit, il faut se protéger, c'est important. Mais la santé mentale...
Oh, même la santé, c'est pas facile à définir.
Enfin, disons que c'est une notion qui quotidiennement revient. Mais santé mentale, ça semble encore plus compliqué.
Oui, on peut. Enfin, on n'est pas obligé de couper les cheveux en quatre non plus. Hein, je dirais que ce qu'on vise en tant que soignant.
Je veux dire par là que la santé mentale a toujours. Enfin, la psychiatrie a toujours été une discipline qui n'a pas eu les plus grandes faveurs budgétaires depuis des décennies.
Oui, alors ça, c'est autre chose. Oui.
Mais c'est-à-dire que c'est aussi une volonté politique de dire qu'on met des moyens dans un secteur particulier. On s'est dit, la psychiatrie, c'est un petit peu à part.
La psychiatrie a toujours été le parent pauvre de la médecine, effectivement. Toujours été vue comme une spécialité... pas vraiment médicale, et c'est vrai que je crois que je dis quelque part qu'elle est noblement bâtarde. Bon, c'est une manière un peu provocante de le dire, mais parce que la psychiatrie, effectivement, est ouverte sur les sciences humaines, c'est pas...
Dites aussi que le discours psychiatrique actuel se construit en haine de la psychanalyse, et que c'est un peu une erreur aussi de s'opposer.
Allons-y doucement, les questions une par une, parce que vous allez très vite en besogne. Donc, c'est effectivement le parent pauvre, et c'est la discipline dans laquelle on ne peut pas, et je pense, moi, qu'on ne pourra pas, même à l'avenir, même avec les progrès de la science, on ne peut pas objectiver les troubles. C'est une illusion, c'est un fantasme qui est soutenu, promu par ce que j'appelle les néopsychiatres, un peu scientistes,
neuroscientistes. C'est-à-dire autour des neurosciences,
l'imagerie dynamique, autour de la neurophysiologie, etc. Et surtout de la génétique. Il y a le fantasme qu'on va pouvoir faire des diagnostics extrêmement précis et puis également faire des prédictions sur la réponse au traitement, ces choses comme ça. Sur la réponse au traitement, bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui existent déjà, mais sur le diagnostic, il n'y a rien. Et à mon avis, plus on découvre la génétique, le soubassement génétique des maladies mentales, et plus on découvre l'océan de nos ignorances. Donc, c'est une discipline qui est peu médicale. Et est-ce que ceci explique cela? En tout cas, c'est une discipline qui est peu dotée. Et j'ai appris récemment que l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui est voté par la représentation nationale tous les ans, est très défavorable à la psychiatrie par rapport à la médecine, la chirurgie et l'obstétrique. Et il y aurait un différentiel actuellement de l'ordre de 5% en défaveur de la psychiatrie. Alors, c'est pas étonnant que la psychiatrie soit effectivement en grande difficulté budgétaire, déjà pour cette raison. Et puis, alors, après, ensuite, la psychiatrie sociale et relationnelle en grande difficulté parce que elle est en concurrence maintenant avec d'autres modèles qui, à mon avis, ne sont pas pertinents, encore une fois.
Emmanuel Venet, on parle justement de problèmes de santé mentale. Alors, vous dites que le discours psychiatrique, c'est un peu quelquefois cogné à la psychanalyse. Mais si, comment définiriez-vous alors entre psychiatrie, psychologie, psychanalyse? Parce que les gens se disent, bon, après tout ça, est-ce qu'on n'est pas dans un même territoire, mais avec des approches et peut-être des manières de traiter différentes?
Indéniablement, oui. La psychiatrie, c'est une discipline, enfin, c'est une spécialité médicale. Donc, tous les psychiatres sont médecins. La psychologie, c'est une discipline paramédicale. Les psychologues ne font pas d'études de médecine, ils font des études, alors de psychologie clinique ou de neuropsychologie, qui vont leur permettre de développer des fonctions thérapeutiques ou des fonctions de diagnostic. La psychanalyse, c'est tout à fait, en soi, c'est extérieur à la médecine. C'est une pensée qui s'est développée au début du XXe, avec un outil conceptuel qui a beaucoup évolué depuis Freud, qui ne demande pas donc d'être médecin ni d'être psychologue. On peut tout à fait avoir d'autres fonctions professionnelles et devenir psychanalyste. La psychanalyse existe très très peu à l'hôpital. La pensée psychanalytique, les concepts psychanalytiques ont certainement fécondé la pensée psychiatrique à une époque, jusque dans les années 80, il y avait vraiment une sorte de complémentarité entre les deux. Et depuis,
parce qu'elle agit moins dans l'urgence?
Parce qu'elle ouvre, je dirais plutôt, des horizons de compréhension des enjeux qui sont, disons, peu visibles dans le symptôme. Les tenant les aboutissants souterrains du symptôme. Pour le dire un peu vite, la psychanalyse propose une pensée, une approche très structuraliste. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'en tenir aux symptômes, on va essayer de chercher qu'est-ce qu'il y a dessous, quelles structures, quels invariants vont pouvoir permettre d'expliquer le symptôme. Et c'est vrai qu'un même symptôme peut avoir des significations fort différentes en fonction de la structure sous-jacente.
Mais vous êtes plutôt partisan d'une écoute de ces mouvements psychanalytiques que le psychiatre ne doit pas ignorer. Ce sont des éléments aussi de compréhension de pathologie.
Je considère que oui. Moi, je ne suis pas psychanalyste. Je le dis dans le livre et je le redis à ce micro. C'est important. Je ne milite pour aucune chapelle. D'ailleurs, je milite vraiment pour aucune chapelle. Je parle en tant que citoyen. Qui a une connaissance praticien d'un terrain professionnel, une connaissance particulière, et qui est affolé à la fois des dégâts ce qu'est en train de vivre cette institution, mais également des faux remèdes qui sont préconisés par, les ténors de la profession. Et c'est vraiment ces deux choses-là qui m'inquiètent.
Mais il y a un élément, c'est que le nombre, vous le dites, de psychiatres diminue en France.
Il a diminué.
Alors que le nombre de malades
augmente.
Voilà.
Augmente, même beaucoup.
Voilà. Alors.
Alors, enfin, de malades.
Comment expliquer
De demandeurs de soins.
De demandeurs de soins.
Mais c'est sans doute que derrière la demande de soins, il y a
aussi des pathologies.
Voilà, il y a de la souffrance psychique, voilà. En tout cas, oui. Et le nombre de psychiatres diminue parce que on a arrêté d'en faire assez pendant une bonne vingtaine d'années, avec un numerus clausus et une limitation des postes à l'internat, qui, je crois, était en grande partie organisé, comme d'ailleurs le numerus clausus dans toutes les disciplines médicales, était organisé par le fantasme que si on faisait moins de médecins, il y aurait moins de demandes de soins. Dans une population qui, d'une part, vieillit et, d'autre part, se paupérise, parce que la souffrance psychique et la pauvreté, ça marche quand même bien souvent de pair. C'était un fantasme, c'était une illusion tout
à fait
ravageuse.
C'est comme si on diminuait le nombre d'ophtalmologues et puis on se disant, bah, comme ça, il y a moins de gens qui porteront de lunettes.
Il y aura moins de myopes. C'est un petit peu ce raisonnement absurde. En tout cas, limiter la demande. Et c'est... Alors, actuellement, là, on est en train de voir le désastre arriver parce que les baby-boomers partent à la retraite depuis une dizaine d'années et les postes qu'ils libèrent restent vacants, y compris dans les grands centres urbains. Et en plus...
Oui, ça ne concerne pas que les zones rurales.
Oui. Ah oui, je peux donner un exemple tout à fait simple tiré de mon expérience personnelle. Quand j'étais jeune médecin dans les années... jeune praticien hospitalier dans les années 90, chaque fois qu'un poste était mis à la vacance, il y avait 10, 15, 20 candidatures. Et il fallait vraiment jouer des coudes pour obtenir, pour décrocher un poste. Actuellement, au Vinatier, il semblerait qu'il y ait environ 25 postes vacants. Et il y a une hémorragie considérable parce qu'il y a ceux qui partent à la retraite, d'une part, phénomène générationnel tout à fait simple. Et puis, il y a ceux qui sont tellement écœurés de des conditions dans lesquelles ils travaillent qui jettent l'éponge et qui partent dans le privé. Ce qui fait qu'actuellement, il y a vraiment une pénurie considérable, y compris dans un grand centre hospitalo-universitaire. Alors, inutile de vous dire qu'il y a des régions rurales qui sont totalement sinistrées, où c'est quasiment plus possible de trouver un psychiatre.
Et où les gens qui sont en souffrance ne trouvent plus personne à qui se confier pour se soigner, pour être suivi, pour être entendu.
C'est ça, et les hôpitaux fonctionnent avec des faisants fonction, avec des généralistes qui se forment, qui font des études de passerelle pour aller vers la psychiatrie. Mais ce sont quand même des conditions extrêmement dégradées par rapport à ce qui est prévu théoriquement pour la psychiatrie publique, pour les structures de psychiatrie publique.
Dans votre livre, vous avez qui ne mâche pas ses mots, c'est un manifeste, c'est normal. Vous écrivez, d'après un professeur de psychiatrie lyonnais, puisque les ophtalmologues ne suivent pas les aveugles et puisque les ORL ne suivent pas les sourds, il serait logique que les psychiatres ne suivent pas les psychotiques.
Oui, alors ça c'est une vision que je trouve tout à fait dramatique, parce que c'est considéré implicitement que la psychose chronique serait un handicap fixé. Si vous voulez, un peu comme la cécité ou la surdité, on n'y peut plus rien. Le tout, c'est donc de donner à ces gens-là des structures médico-sociales où ils sont assurés d'avoir un toit sur la tête et le ventre plein trois fois par jour.
Et des médicaments.
Et des médicaments, voilà. Mais avec une structure de soins qui est quand même, en général, minimaliste, même dans les foyers d'accueil médicalisés. La présence médicale est tout à fait empointillée. La présence infirmière n'est pas constante. Et véritablement, la perspective de soins n'est pas du tout la même. C'est une perspective de maintien à l'équilibre et pas du tout d'essayer de corriger, d'essayer de faire évoluer le patient vers plus de liberté interne et éventuellement vers l'abandon de ses symptômes les plus handicapants, les plus gênants. Donc c'est vraiment une sorte de capitulation. Je le vis comme ça et j'en suis extrêmement meurtri parce que la psychiatrie que j'ai connue dans les années 80 avait beaucoup plus d'ambition que ça.
L'ambition du soin.
L'ambition du soin, oui, et de mettre le paquet, y compris sur des malades lourds, très en difficulté, mais qu'on ne désespérait pas d'arriver à faire évoluer.
Est-ce que dans votre structure au Vinatier, dans cet hôpital, vous avez pendant la crise sanitaire, le confinement, ressenti, parce qu'on a beaucoup parlé de problèmes de personnel, des conditions d'hygiène, etc. Enfin, il y avait toujours des problèmes. Est-ce que vous avez vécu aussi des problèmes de manque de personnel, de difficultés, au-delà de ce que vous aviez dit tout à l'heure, de difficultés budgétaires, mais qui est le cas de tout l'hôpital public.
Alors, au Vinatier, il n'y a pas eu de crise majeure. La crise sanitaire a été gérée globalement de manière correcte. Je ne vous dis pas qu'ici et là, on n'a pas manqué un peu de masques FFP2. Mais bon, ça n'a pas pris des tournures dramatiques. En revanche, il y a quelque chose qui est inquiétant. C'est que pour faire face aux nouveaux impératifs de distanciation, etc., on a fermé des services et on a fermé les services pour pouvoir accueillir dans des meilleures conditions possibles des patients Covid dans des services dédiés. Alors, la fermeture de certains services, c'était pour renforcer les équipes avec la crainte qu'il y ait pas mal de gens malades dans le personnel et qu'il fallait avoir un peu plus pour être sûr d'avoir assez. Bon, donc ça, c'était une logique de crise qui se comprend tout à fait. Et puis, on a mis en place une plateforme téléphonique et on a promu, bien évidemment, le télétravail. Tout ça, c'était des pis-allers qui étaient tout à fait nécessaires dans ce moment-là. Ce que je déplore, c'est qu'après la crise, on dit, vous voyez, ça fonctionne comme ça. C'est peut-être pas la peine de revenir aux soins. Alors, j'ai horreur de cette expression, mais en présentiel, comme on dit.
Oui. C'est un peu comme pour les gens qui sont partis en télétravail. On dit, finalement, vous pouvez peut-être rester dans votre cuisine, ça marche pas si mal.
Voilà. Donc, on observe ça. Et il y a actuellement des polémiques tout à fait vivent autour de la réouverture ou de la non-réouverture de certains services qui ont fermé pour la crise du Covid et qui resteraient fermés parce que finalement l'idéologie dominante fait que on n'a plus tant besoin que ça d'hospitalisation, de lits d'hospitalisation.
Oui, lits qui diminuent, vous dites que d'après une étude en 2017, on est passé de 169 lits de psychiatrie pour 100 000 habitants en 1990 à 81 en 2016. Donc une nette diminution.
Oui, et en gros, depuis les années 70, ça a diminué par 3. Ça s'est divisé par 3. Avec une diminution plus lente pour les lits du privé.
Alors que les cas, eux, n'ont pas diminué.
Mais non seulement ça, mais voilà. La psychiatrie publique, alors je ne sais plus bien les dates, mais elle prenait en charge 1 million de personnes il y a, mettons, une trentaine d'années, et actuellement, c'est 2 millions.
Oui, donc ça a doublé.
Donc voilà, il y a une demande vraiment qui est de plus en plus pressante. Je pense qu'on vit dans une société qui est de plus en plus pourvoyeuse de souffrances psychiques et que c'est pas du tout étonnant. C'est simplement affolant de penser qu'on peut plus répondre. Alors je le dis dans le livre, il y a des centres, par exemple à Vaux-en-Velin, qui est une commune de la banlieue lyonnaise et qui est la troisième ville la plus pauvre de France. Il y a pratiquement plus de réponses, il y a plus moyen d'avoir un premier rendez-vous de consultation au centre médico-psychologique. Et à Rieux, qui est une autre commune...
C'est-à-dire qu'il faut attendre...
Il faut pas... L'éternité, c'est... L'éternité, oui. Alors, en soulignant que c'est quand même, vu la pauvreté générale des habitants de cette commune, ce sont des gens qui, bien évidemment, ont très peu la possibilité de se retourner vers le libéral, parce que le libéral, la psychiatrie de ville, elle suppose de payer des dépassements d'honoraires ou de payer une mutuelle qui les prend en charge, et ça, bien évidemment, dans une commune aussi sinistrée sur le plan économique, c'est un peu utopique. À Rieux, qui est une commune à peu près équivalente, peut-être un tout petit peu moins pauvre, j'ai demandé récemment un rendez-vous pour un patient, et on m'a annoncé 1 an et demi de délai.
Oui.
1 an et demi, c'est absurde. C'est presque comme si on disait rien, quoi.
Alors vous montrez, vous rappelez d'ailleurs dans votre manifeste pour une psychiatrie artisanale que la psychiatrie, il y a toujours une dimension un peu politique derrière cette notion, parce qu'on détermine aussi, on s'aperçoit qu'il y a une sorte d'américanisation de la psychiatrie, puisque les pathologies sont répertoriées dans un grand manuel qui est quand même américain, d'une certaine manière, et que... Par exemple, ça c'est assez étonnant, en période où on parle du fameux coronavirus, des maladies, il y a des maladies qui ont disparu, vous dites, l'hystérie, qui est une maladie qui a plusieurs millénaires, n'existe plus, il n'y a plus d'hystérique.
Oui, alors ça demande qu'on s'explique bien, qu'on s'entende bien, parce que c'est un sujet qui peut prêter à des polémiques très vives. Ce qu'on appelait l'hystérie, ça a été décrit la première fois presque 2000 ans avant Jésus-Christ dans l'Égypte antique. C'était un ensemble de troubles qui étaient plutôt corporels, qui étaient féminins et qui étaient considérés comme le reflet d'une excessive sécheresse de l'utérus. Alors les médecins de l'époque avaient fait l'hypothèse que l'utérus migraient dans l'organisme à la recherche d'humidité et provoquaient ici des difficultés respiratoires, là des convulsions, là des paralysies, etc.
Oui, c'est une théorie
extrêmement ancienne, et c'est une théorie qui ensuite a été fixée au 4e siècle avant Jésus-Christ par Hippocrate. Et pour la petite histoire, c'est probablement la maladie qui est la plus ancienne, qui a gardé son nom.
Mais qui aurait disparu.
Alors,
il faut
dire qu'elle...
Des nomenclatures...
Oui, elle a disparu.
De pathologie psychiatrique.
Mais avant de disparaître, elle a évolué.
Oui.
Elle a évolué.
Charcot.
Il y a eu tout le mouvement très scientiste du 19e siècle, la recherche des causes. On dirait aujourd'hui neurophysiologique de l'hystérie.
Avec toujours l'idée que c'est quand même une maladie féminine.
Oui, alors pour Charcot, c'était encore assez nettement comme ça, et en tout cas les patientes
au 19e siècle,
qui montraient dans ces présentations de malades, c'était tout des femmes, et c'était des femmes qui étaient quasiment des actrices. Freud est arrivé par là, et Freud a développé deux idées importantes. C'est l'une que l'hystérie n'est pas strictement féminine, elle peut être masculine, et deuxièmement que c'est une sorte de mise en scène dans le corps d'un désordre qui est psychologique. Alors, il y a eu des théories diverses et variées. La première qu'il a élaborée, c'est une théorie d'un traumatisme ancien et oublié qui se manifesterait comme ça par des signes corporels, et puis ensuite d'un fantasme organisateur du symptôme. Bon, jusque-là, c'est très controversé, c'est très... On peut regarder ça avec une certaine distance, voire condescendance. Mais après, il y a un psychanalyste que je trouve très intéressant, c'est Lucien Israël, qui a proposé l'idée que le langage corporel de l'hystérique, c'était un peu le langage de l'opprimé. C'est la manière dont les opprimés peuvent lancer des messages, éventuellement des SOS ou des défis, à l'ordre, on pourrait dire, enfin, l'ordre respectable et notable.
Et donc ça pourrait médical. Toujours exister.
Je pense, alors, si vous voulez, voilà où je veux en venir. Avec Lucien Israël, il y a cette dimension politique. C'est une maladie des opprimés. Dans le fond, on retrouve
ce fut
une maladie des femmes, et les femmes ont été opprimées et le sont encore. Et puis, c'est une maladie peu compréhensible. Et c'est devenu, dans les années 70-80, sous son impulsion, c'est devenu un peu le lieu dans les classifications de l'ignorance des psychiatres sur les symptômes qui leur sont adressés et sur les moyens de les traiter. Parce que traiter l'hystérie, c'est vraiment toujours...
Et cette ignorance aboutit à la suppression.
C'est toujours du bricolage. C'était des traitements qu'on ne pouvait pas protocoliser, qu'on ne pouvait pas standardiser d'aucune manière, et qui demandaient beaucoup d'écoute, beaucoup de disponibilité, beaucoup de créativité soignante. Alors ça, le fait qu'il y ait une zone d'ignorance dans les classifications, je crois que ça a été très mal supporté par ceux que j'appelle les néopsychiatres ou les neuroscientifiques.
Oui, qui veulent que les choses soient très classifiées.
Il faut que tout soit clair. Et donc, une chose à chaque place.
Réglementée.
Et une place pour chaque chose. Donc voilà, il y a des diagnostics qui sont maintenant des diagnostics trahissant une volonté d'omniscience. Et donc, il n'y a plus d'hystérie. Il n'y a plus cette zone d'inconnaissance.
Bien évidemment. Donc, ce n'est pas la maladie qui en soi a disparu. C'est plutôt le fait qu'on ne la reconnaît plus comme telle et qu'on préfère... ne pas la mettre dans cette nomenclature.
Oui, évidemment, la logique hystérique n'a pas disparu. L'oppression, la souffrance psychique qui se manifeste de manière un peu bizarre. Et je pense que l'une des façons qu'ont les hystériques de ressurgir là où on ne les attend pas, c'est dans les dépressions résistantes ou tous les tableaux résistants qu'aucun protocole de soins n'arrive à résoudre.
Vous écrivez, Emmanuel Venet, dans votre manifeste, « La psychiatrie ne saurait se réduire à une palette de techniques entre lesquelles il faudrait choisir la plus pertinente en fonction d'un barème standardisé. » C'est un peu ce que vous venez de dire sur l'hystérie. Est-ce que vous êtes optimiste sur un retour d'une psychiatrie artisanale dans l'hôpital public ?
Pas vraiment. En tout cas, pas à court terme. Parce que à court terme, ce que j'ai appris récemment, c'est que le pouvoir politique, qui a toujours un petit coup d'avance, organise la paupérisation encore plus grave de la psychiatrie de secteur, avec une nouvelle règle de tarification qui va rentrer en vigueur prochainement, qui s'appelle la tarification par compartiment. Et c'est une usine à gaz dont je ne saurais absolument pas vous dire le détail, mais il y a une logique, une finalité, c'est de promouvoir tout ce qui est fait par les services universitaires, donc les centres experts, tous ces dispositifs, la génétique, etc., au détriment de la psychiatrie de secteur qui va un peu plus pâtir des nouvelles règles. Je pense que c'est une volonté de l'étrangler. Vous savez, le vieux proverbe, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Donc, enfin, qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Donc, je pense que c'est une volonté politique assez délibérée d'aller vers la fin de ce modèle sectoriel, qui est d'ailleurs extrêmement décrié par des psychiatres de sensibilité néolibérale, ultralibérale, hein, qui considèrent que c'est une vieille psychiatrie de gauche tout à fait archaïque et qui, dans le fond, ont autant d'irrespect pour cette psychiatrie que pour la carte scolaire. Et la carte scolaire vise à essayer de déjouer la reproduction des élites, le secteur psychiatrique vise à essayer de faire en sorte que personne reste sur la touche sans soins psychiatriques. Eh bien, cet idéal égalitaire, il est très très fortement mis à mal actuellement. Bon, après, peut-être que dans un deuxième temps, il y aura un retour de balancier, mais je ne suis pas sûr que je le verrai.
J'espère, merci beaucoup Emmanuel Venet, j'espère que votre diagnostic ne sera pas confirmé dans les années qui viennent sur cette psychiatrie de secteur que vous défendez avec beaucoup de fougue et de précision dans ce manifeste pour une psychiatrie artisanale publié chez Verdier. Et je rappelle aussi que vous publiez dans les jours qui viennent des observations en trois lignes aux éditions La Fosse aux Ours, un très bon éditeur lyonnais, où il y a une sorte d'hommage à Félix Fénéon, à ses manières de raconter des petites histoires. Et le psychiatre est aussi quelqu'un qui sait observer attentivement. Merci encore d'être venu et je renvoie à votre livre où il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur cette psychiatrie française.
Merci beaucoup. Merci.